Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. Startup Mafia, c'est un format long. Une saison est consacrée à une scale-up et un épisode est consacré à un talent. L'objectif, comprendre l'envers du décor avec un prisme talent, car c'est eux qui contribuent, avec les fondateurs, à faire grandir le business de manière si rapide. Excellente écoute à tous! C'est parti. Alors aujourd'hui, on a Manu avec qui on va passer un super moment. Je suis ravi de faire cette interview parce qu'en fait, avec Manu, on se connaît depuis longtemps. Et donc, avoir une vue sur son parcours et jusqu'où il est arrivé et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui chez Checkout, ça va être un excellent moment. Donc Manu, merci pour ton temps déjà. Et puis, bah, la première question plutôt synthétique pour commencer cette interview. Dis-nous un peu qui tu es, ton état civil, pour que tout le monde sache à qui ils ont affaire.
Ouais. Puis on se connaît plus souvent depuis longtemps, mais c'est cool, c'est une bonne occasion de reprendre connaissance aussi. Ça fait un bail qu'on s'était parlé.
Exactement.
Donc Manu, ouais, VP Product à Checkout aujourd'hui. Je m'occupe majoritairement de ce qui est intégration avec les moyens de paiement, donc tout ce qui est Visa, Mastercard, PayPal, American Express, tout ça. Faire en sorte que nos équipes en interne et nos clients puissent s'intégrer avec avec tous ces établissements de paiement, accepter des paiements en ligne et mettre des payouts, en tout cas. Voilà.
C'est pas mal comme, ouais. comme titre. Donc, ce que tu dis pas à nos millions d'auditeurs, c'est que tu es également entrepreneur. Donc, on va voir un petit peu comment tu es rentré dans Checkout via ProcessOut. Mais ce que je te propose d'abord, c'est pour mieux te connaître, c'est d'essayer de revenir un peu en arrière, un peu comprendre un peu ton parcours jusqu'à Checkout. Toi, t'as grandi dans quel milieu? C'était plutôt, est-ce que t'es parisien? C'est quoi ton setup de départ?
Alors, je suis pas parisien, même si hier soir, j'étais avec des amis et justement, on blaguait sur ça. Est-ce qu'on est parisien, est-ce qu'on n'est pas parisien? Et moi, clairement, maintenant, je me considère parisien. Mais non, je viens d'Angers.
Okay.
D'une famille du coup angevine qui vient de la région là-bas. J'ai une partie de ma famille maintenant qui est à Paris, mais concrètement on vient pas de Paris.
Ok.
Enfin, je viens d'une famille à peu près normale, pas bourgeoise, pas aisée, mais pas dans la merde non plus.
Ok.
Donc on était plutôt bien.
Combien de frères et sœurs?
Tiens, là, on va partir direct dans le perso alors.
Ah ouais, dans le perso.
Non mais tu vas voir, parce que j'avais deux frères.
Okay.
J'en ai perdu un justement au début de ProcessOut, ce qui peut être intéressant, parce que justement en fait je pense que ça a été un des éléments déclencheurs qui m'ont motivé à avoir une distraction un peu personnelle pour me focusser sur un projet qui prend vraiment l'attention quoi.
Okay.
Donc du coup maintenant j'ai un frère, mais voilà.
D'accord.
Direct dans les questions.
Donc dans un milieu donc tu disais modeste, mais plutôt éduqué, plutôt geek, plutôt technophile.
Non, plutôt... Ouais, non. Clairement plutôt éduqué. Mon père est médecin généraliste. Il était aussi enseignant à la fac de médecine. Ma mère bossait aussi dans le milieu hospitalier et dans l'ingénierie de formation. Donc clairement, enfin, je pense que mes parents étaient... c'est des personnes éduquées. Mon frère, je pense qu'il avait essayé un peu... Donc mon frère qui est encore là, il avait essayé un peu de surfer, on va dire, je pense, sur les vagues des nouvelles technologies. Et du coup, lui, en fait, il s'est focus sur l'informatique quand il était jeune. Et je pense que ça a aussi été un des autres éléments déclencheurs, honnêtement, pour moi, pour me focus là-dessus. Enfin, c'est-à-dire que c'était quelque chose que je trouvais vachement intéressant, comment est-ce qu'il avait créé sa boîte, parce qu'il a aussi créé ses boîtes.
D'accord.
Et je trouvais ça... Je suis désolé, je vais faire de l'anglicisme, mais tu vois, look up to him, c'était vraiment quelque chose que je faisais. Désolé, dans mes journées, j'ai tendance à parler qu'anglais, donc vu que c'est une journée de la semaine, je vais sans doute parler en anglais.
Pas de problème. Et donc toi, t'es le dernier?
Ouais, je suis le dernier. C'est mes demi-frères.
Ok. Et donc, tu grandis à Angers, tu fais primaire, collège, lycée,
ouais.
tu fais des études plutôt scientifiques,
Ouais, je suis en bac S, pour moi c'est ce qu'il faut faire. En fait, assez tôt, je sais que je veux faire des études d'informatique, je sais dans quelle école je veux aller, c'est
Pita
à Paris, qui était à l'époque, je pense que maintenant ça s'est un peu cassé la gueule, mais à l'époque c'était vraiment l'école qui était, bon, qui est privée, mais qui était l'école qui était vraiment regardée, je pense, par la majorité des boîtes comme étant la boîte qui font les meilleurs informaticiens en France.
Okay.
En tout cas, ingénieurs informatiques en France plutôt qu'informaticiens. Et c'était, je savais que je voulais aller là, donc pour y aller, il faut faire un bac S, il faut être bon en maths, tu vois, ce genre de choses.
Ok, donc, donc très tôt, tu sais ce que tu veux faire. Ouais. Et donc, tu rentres dans cette école après la prépa. C'est une prépa intégrée, ça marche pas ?
Intégrée,
ouais. Ouais, ok.
Il y a un concours à l'entrée où je me foire. Donc, il y a trois étapes, oral, écrit et un autre truc. Et je me foire et je vais jusqu'au troisième. Donc, jusqu'à la fin, je savais pas si j'étais arrivé.
D'accord, bon, ils t'ont pris quand même.
Ouais, ils m'ont pris quand même.
Ils ont eu de la chance. Et donc, là, tu rencontres d'autres personnes chez Epita avec qui tu dis rapidement, tu as des affinités sur quel sujet ? Tu sais que tu vas faire de l'informatique, mais qu'est-ce qui t'intéresse à ce moment-là ? C'est plutôt le produit, le réseau
Je pense que honnêtement, je sais. Enfin, le réseau. Enfin, c'est quand qu'est-ce que tu appelles le réseau ? Pardon, le réseau social ou le networking
ou le système dans l'informatique, qu'est-ce qui t'intéresse ?
Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire des choses.
Ok.
Je pense qu'à ce moment-là, je sais pas que le produit ça m'intéresse.
Ok.
Mais je sais que construire des choses, ça m'intéresse. Okay. Donc, avant le bac, ou avant même le brevet, je faisais des projets sur perso, sur mes ordi, où je codais des trucs, je codais des sites et tout.
D'accord, donc tu codais très tôt déjà.
Ouais, plutôt, enfin, très tôt, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, genre, tu sais, je commence à coder à partir de 5 ans et tout. C'est pas mon cas. À 5 ans, mes parents voulaient pas me filer un ordi, j'avais pas accès à un ordi, donc clairement, je pouvais pas. Mais quand j'ai commencé à avoir un ordi, je pense que c'est là où j'ai commencé à explorer un peu le truc. Et au lycée, je pense que c'est là où ça a commencé vraiment à prendre plus une ampleur, où je pense que, enfin, c'est là où je sais que c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est que je vois que quand je fais des projets, je peux générer de la thune avec ça, qui est pas déclaré et tout, mais t'as un peu de thune de poche, quoi, on va dire. Et du coup, je fais des trucs sur internet, machin, et à mon bac, donc j'en fais un peu. Je m'achète un ordi avec ça, un gros MacBook.
Comment tu fais de la lancer que tu lances quoi comme projet, c'est quoi le, parce que t'as un premier moteur qui est financier déjà, parce que pour toi c'est un moyen de gagner de l'argent facilement.
Ouais.
Mais tu fais quoi comme service online pour gagner de l'argent?
Bah, je fais plusieurs trucs. Déjà, je me fais arnaquer par des mecs qui font une agence web et qui ont un jeune qui connaît pas trop les tarots et qui veut faire du taf pas cher pour eux.
D'accord.
Donc, je fais des sites pour des boîtes.
Donc, t'es presta?
Ouais.
Ok.
Voilà. Pas déclaré forcément non plus. Mais okay. Donc, voilà. Ce qui fait un peu flipper mes parents. Après, juste pour les auditeurs, ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc, c'est pas non plus un gros
problème. C'est pas des centaines de millions.
Exactement. Mais, c'est quelques milliers. Voire moins au début même.
Ouais.
Ça reste assez, assez ridicule.
Mais quand t'es au lycée, c'est.
C'est génial. Exactement, ouais. C'est génial. Genre, quand mes potes ils galèrent pour aller en vacances, moi, tu vois, je peux le faire comme je veux. Quand ils galèrent pour s'acheter une console ou un PC, moi, je peux le faire. Enfin, tu vois, c'était plutôt sympa.
Ouais. Et
du coup, je fais des sites, je fais des trucs un peu moins glamour. C'est vraiment l'époque où. Je sais pas s'il faut être fier ou pas, mais il y a des sites un peu shady sur internet, pas shady genre dégueu, mais genre shady en mode tu fais des outils pour hacker des sites internet ou des choses du genre pour faire en sorte que quand t'as un site internet il marche plus pendant un certain temps. Je sais pas, faire des attaques DDoS et tout. Donc à l'époque je trouvais que c'était marrant, ce genre de choses là, donc je faisais des sites pour faire ça.
D'accord.
Que je vendais, donc je faisais pas les attaques, donc pour moi ça restait pas un gros problème personnel, mais je revendais la technologie qui permettait de faire ça à des gens, et après ils savaient ce qu'ils voulaient.
D'accord, donc tu revendais clé en main les...
Ouais.
Ok, c'est marrant.
Ouais, non, mais c'était... mais en fait, c'était intéressant, et c'est là aussi, je pense que je me suis fait la main sur comment créer des outils qui répondaient à des besoins, même si les besoins n'étaient pas forcément très...
Comment tu trouvais tes clients ? Comment tu as trouvé cette opportunité ?
C'est les forums.
Forums ?
Ouais.
Ok, donc tu passais tout le temps sur les forums pour trouver des opportunités, quoi.
Ouais.
Ok. Ok, donc t'arrives à Epita, là t'as des gens qui sont plus classiques, c'est où globalement tu te retrouves avec des gens qui ont un parcours similaire au tien. C'est quoi le... tu te fais des potes, comment ça se passe ?
En fait, je pense que c'est un peu les deux. En fait, à Epita, je pense que t'as vraiment les deux profils. T'as les profils de gens qui sont justement un peu intéressés par l'aspect business.
Ouais.
Et puis de l'autre côté, t'as les gens qui le sont pas du tout. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, je pense, justement, à me connecter avec ces gens qui sont pas du tout intéressés par l'aspect business, qui ne comprenaient pas nécessairement, en fait, quelle était la valeur qu'ils créaient quand ils programmaient des trucs. Et à contrario, tous les gens qui comprenaient ces sujets-là, bah, c'est avec eux où je me suis plus entendu. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que quand on a rejoint Epita, je dis bon, parce que tu vas voir après, mais on a tous été, quasiment tous, dans les classes qu'on appelait internationales. Du coup, on parlait anglais, on avait des cours en anglais et tout. En fait, je pense que c'était un profil différent, les gens qui recherchaient ce genre de classe-là. Donc, en fait, la majorité des gens business étaient dans ces classes-là.
D'accord. D'accord, c'est étonnant que tu dises qu'il y ait quand même. Donc, il y avait déjà des gens business, tu vois, des gens qui se disaient, OK, on va développer des produits, des services. C'est pas forcément ce que j'aurais.
C'est pas nécessairement un aspect business pour moi, mais c'est plus un aspect qu'ils comprenaient. Tu vois, genre, c'est un peu. Il y a la graine, ouais. Et tu sais qu'après, genre, ça pourrait grandir dans un aspect plus business.
D'accord.
Donc, tu vois, après, on en parlera après, mais les Cyril, tu vois, typiquement. Je pense que c'était pas le profil d'ingénieur informatique qui voulait rester ingénieur informatique.
Okay.
C'était plus genre une stepping stone pour arriver à un job plus business.
D'accord.
Ce qui fait totalement aujourd'hui maintenant.
D'accord. Parce que finalement, toi, dans ton parcours, déjà, tu faisais du business. Si t'étais déjà dans un parcours où tu monétisais une compétence.
Après, est-ce que donc ça du business ou pas?
Si. Enfin, tu vois, tu crées une valeur, tu la revends. Alors, est-ce que tu la vends au bon prix? C'est un
sujet.
Mais c'est déjà une démarche, tu vois, intéressante dans lequel t'es doueur. Et puis après, tu arrives à comprendre qu'il faut des clients. Tu les trouves avec un canal d'acquisition un peu particulier qui sont les forums, et puis bon, normalement, je sais pas comment tu arrives à te faire payer si t'as un Stripe à l'époque qui n'existait pas.
Et PayPal à l'époque.
PayPal, voilà. Ouais. Donc tu faisais payer par PayPal. Ok. Et donc tu rencontres à l'EPITA, donc une première mafia qui est finalement la mafia Process Out, si on les énumère, parce que vous êtes nombreux.
Ouais.
Comment ça se passe cette rencontre? Ça se passe dans cette majeure internationale, ou c'est quoi la vraie histoire?
Ouais, non, en vrai, ça s'est fait de manière très naturelle. En fait, il y a deux rencontres, je pense. Il y a la rencontre hors Process Out, juste perso.
Okay.
Et il y a la rencontre après Process Out, et comment est-ce que c'est arrivé, ce groupe un peu final.
Ouais.
La rencontre avant, en fait, c'est tout con. J'étais dans un bâtiment étudiant, je ne sais plus comment ça s'appelle, une résidence étudiante.
Ouais.
Et j'étais dedans, il y avait Cyril qui était dedans aussi, et Louis-Paul. Et un autre copain qui s'appelle Erinus, qui était d'ailleurs dans l'aventure au tout début, justement parce qu'il était dans la résidence, puis après qui a choisi de se séparer, mais on pourra revenir sur ça. Mais du coup, on était un peu cette mafia initiale.
Okay.
On passait nos soirées ensemble, on parlait pas du tout de business, on parlait pas du tout de projet, juste on passait notre temps, on allait dans l'école, on jouait à Team Fortress à l'époque. Donc c'était, on passait notre petite soirée comme ça.
Okay.
Puis de fil en aiguille, en fait, il y avait deux classes internationales. En fait, ils se sont rendu compte qu'on avait vraiment très peu d'étudiants dedans. On était 20, alors que les autres classes, ils étaient 80, je crois. Donc, ils ont mergé les deux internationales pour qu'on soit 40 au lieu de 20. Et deux autres personnes qui étaient dans ces deux autres classes-là, qui sont Guillaume et Jérémy. Donc, c'est là où on a commencé aussi à pas mal passer, à passer pas mal de temps ensemble. Et Greg est arrivé un peu plus tard.
Ouais.
Mais du coup, dans l'optique de Process Out, il y avait un event que l'école avait organisé autour d'un incubateur, ça, plutôt accélérateur que l'école avait, qui s'appelait Startup 42. Ils avaient fait un event, on avait présenté là-bas, Greg était venu, et il a vu ce qu'on faisait, et c'est comme ça qu'on s'est rencontré.
D'accord, donc l'idée de Process Out, elle vient de qui au départ? Cette idée de fintech, qui est à l'origine de ça?
En fait, je pense que c'est comme tout. Enfin, en fait, il y a plusieurs aspects à une idée, tu vois.
Ouais.
Tu t'itères beaucoup. Donc, l'idée vraiment toute initiale, c'était pas Process Out. C'était on repart un peu dans les trucs forum, mais, parce que c'était toujours un peu l'époque où j'étais là-dedans, mais, un moteur de recherche de données piratées. Donc, en gros, tu sais, à l'époque du Right to be Forgotten, le droit à l'oubli, c'est sorti et ça disait, en gros, Google, Facebook et tout, tu vas aller voir, tu leur dis, je veux qu'ils puissent me filer la donnée qu'ils savent sur moi et je veux qu'ils puissent supprimer la donnée qu'ils ont sur moi.
Okay.
Et ça, pour tous les sites, peu importe lesquels, avec qui tu as envoyé de l'information. C'était n'importe quoi. Enfin, moi, j'y crois toujours pas, ce genre de loi, parce qu'une fois que tu as mis ton information sur Internet, elle y sera, elle y reste, tu as les backups partout, tu as des piratages et des bases de données, tu as des dumps sur Internet. Peu importe ce qui se passe, la donnée, elle est sur Internet, elle y restera. Le but de ce moteur de recherche, c'était de récupérer toutes les données que Internet avait, de manière libre. Donc, notamment sur Google, il y a des petites techniques, mais tu peux trouver des bases de données piratées assez facilement et littéralement tu mets ton email et ça te sort les mots de passe qui sont trouvés sur le net.
Okay.
Donc ce que j'avais fait, c'était juste j'avais fait ça et j'avais agrégé la donnée. Et du coup, tu mettais ton email ou ton nom et ça te sortait ta date de naissance, potentiellement ton numéro d'identité, ton numéro de sécu, tes passwords connus, ce genre de choses.
Okay.
Et ça avait généré pas mal de traction, forcément, parce que les gens, je pense que quand tu mets un truc comme ça, ils sont pas intéressé ou flippé ou autre, mais je pense que ça, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, on avait généré beaucoup de traction. Je crois que c'était la première semaine, c'était des centaines de milliers d'utilisateurs uniques par jour qui cherchaient des choses sur le moteur de recherche. J'étais passé sur quelques, chaîne d'info, je crois, en très rapide, hein, mais je crois que c'était passé rapidement. Donc, on avait pas mal de traction, et moi, en tant que client, je voulais que les gens puissent payer d'une manière ou d'une autre sur le site, parce que, tu vois,
faire de la chaîne, c'est pas mal
aussi. Ouais, et puis faire de la chaîne, c'est pas mal aussi. Surtout, encore une fois, quand t'es étudiant, et que t'es dans un 15 mètres carrés qui était vraiment tout petit et qui me faisait chier. Mais du coup, j'ai essayé de faire ça, et vu que t'avais vraiment beaucoup d'utilisateurs, il y en avait partout dans le monde, et pas de moyen d'acheter du paiement facilement. Stripe, c'était que aux US à cette époque-là. Ils n'avaient pas de moyen de paiement alternatif, donc quand tu voulais targeter la Chine ou autre, c'était impossible. Et donc, du coup, bah, c'est là où j'ai développé une technologie qui me permettait d'agréger ces moyens de paiement et de le mettre sur ce moteur de recherche. Donc, puis en aiguille, un mois après, le moteur de recherche n'existait plus. Mais il y avait cette brique technologique qui restait, et c'est ça qui est devenu Processors. D'accord. Maintenant, ce que je disais après c'est juste, enfin, c'était vraiment en début, mais c'est pas du tout ce que Processors est devenu. Donc je pense que Processors justement est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce justement à tous les autres associés qui sont...
Bien sûr. Donc toi, tu avais bootstrappé finalement une genèse de Processors un peu par accident, par ce biais du moteur de recherche, et puis donc t'es arrivé avec tes futurs associés avec ce MVP en disant ok, j'ai fait ça machin, et puis vous avez spoté cette brique fintech en disant ah ouais, c'est intéressant de partir de ça, on va le redévelopper. Bon, au départ vous êtes alors si on met Greg de côté parce qu'il va arriver certes assez tôt dans l'aventure, mais au début vous êtes quand même que des ingés Epita, quoi, de ce que je comprends.
Au tout début il y a lui, Paul.
Ouais.
Je ne sais plus s'il y a réuni déjà, donc l'autre gars qui s'est séparé, et moi. Et donc vraiment au tout début, on avait même 6 mois à l'étranger dans notre cursus, en deuxième année à l'école. Donc on est parti en Californie, et je me souviens avec l'école, du coup on ne connaissait rien à monter une boîte. On savait qu'on voulait monter une boîte à ce moment-là, mais on ne savait pas comment ça marchait. On avait un de nos profs qui était un prof business et qui mettait sur LinkedIn que c'était un business angel. Donc on allait le voir, on lui disait bah, tu veux pas mettre de la thune chez nous, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais voilà, quand on itérait un peu dessus, c'était la première version, et c'est quand on est rentré en France qu'on s'est vraiment rapproché de l'école. D'accord. Et que là on a commencé à se rapprocher des autres cas, donc Guillaume, Jérémy, Cyril et Greg qui s'est rattaché, je pense, 6 mois après.
Ouais, d'accord. Donc et aux US, vous apprenez quoi, enfin, est-ce que vous dites ah ouais, ok, effectivement il faut monter une boîte, ça vous conforte dans l'idée d'avancer dans ce truc-là? Et vous faites quoi là-bas? Vous faites des études? Vous faites des...
Ouais, c'est un échange universitaire.
Ok.
Donc on rejoint une université là-bas. Concrètement, on travaille pas beaucoup. C'est cool d'être en Californie et de pouvoir faire des road trips. Et vu que le niveau universitaire là-bas est franchement médiocre, tous les examens, en fait, on peut y aller sans aller en cours. Donc juste on se balade dans la région, quoi. Est-ce que ça a vraiment eu un impact sur Processors? Je sais pas. Franchement, je pense que juste ça nous a hypé un peu,
okay.
Mais ça n'a pas permis de développer le business. C'est pas là où on a fait des grandes avancées.
Ok. Donc vous revenez en France, et là vous voulez passer à la seconde, vous rencontrez vos futurs associés, et comment ça se passe finalement? Parce que là, vous êtes beaucoup autour de la table. Comment le split de qu'est-ce qu'il faut faire se fait? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus business que d'autres, plus produits que d'autres, plus tech que d'autres? Comment ça se dessine?
Bah, en fait, c'est... J'avoue que ça devient un peu flou maintenant avec le séquencement des trucs, parce que ça commence à faire un bail. Mais je pense que ce qui a vraiment démarré le truc, c'est que il y avait Startup 49 du coup dans Epita.
Ouais.
Pour nous, c'était une étape facile de concrétiser la chose, quoi, de la rendre concrète. Désolé si je fais du français qui est mauvais, mais de te rendre la chose concrète. Et du coup, on a rejoint ça. Ça nous a permis de commencer à avoir un peu de structure. Je crois que c'est là aussi où Cyril a rejoint pour justement apporter l'aspect un peu plus business, parce que forcément quand tu rejoins un accélérateur, bah, il faut avoir un aspect business, et concrètement, lui, Paul et moi, on n'est pas des commerciaux, même si au début je voulais l'être, enfin je voulais penser que je puisse être un bon dans ça, mais voilà. Du coup, je pense que c'est là où on a vraiment rendu la chose réelle, et comment est-ce que les autres sont arrivés, c'est que, bah, un, on avait des objectifs qu'on se fixait dans l'accélérateur. Et deux, l'école nous donnait aussi des objectifs, parce que du coup, c'est pas ça que j'ai... Enfin, ça, j'en ai pas parlé, mais notre but, c'était aussi de pas aller en cours, et pour pouvoir bosser sur la boîte, maintenant qu'on savait que c'était quelque chose qui devenait concret. Et le deal avec l'école, c'était que on pouvait faire ça si on réussissait à avoir des parallèles entre ce qu'on faisait dans Processors et ce que les cours que l'école avait. D'accord. Donc typiquement, il y avait un cours de mobile SDK ou de trucs comme ça, Donc du coup on s'est dit bah viens on va faire une UI de paiement sur le mobile. Concrètement c'est allé nulle part, c'était plus juste un projet qui nous avait ce qui nous a servi en tant que business, mais ça nous a permis de nous rapprocher de Jérémy qui a bossé sur ça, donc c'est comme ça que Jérémy est arrivé. Guillaume, je crois que c'était un truc similaire où il fallait qu'on accélère sur un projet qu'on avait dans Process Out et Guillaume était intéressé, donc on a commencé à bosser ensemble. En fait tout a été très naturel.
D'accord. Et donc Et donc, vous faites cet accélérateur, vous en sortez, donc à la fin de cet accélérateur, il y a une boîte qui est incorporée, donc vous êtes 5 ou 6 déjà.
Non, alors en fait, on est. En fait, ça s'est vraiment accéléré, je pense. Je pense que le vrai switch entre on n'est que lui, Paul, Cyril et moi, et c'est une boîte qui commence vraiment à faire une boîte, ça a duré moins d'un an.
Okay.
La toute première version de Process Out, je crois que c'était, et je suis désolé Cyril, j'ai dégoûté que tu et que c'est pas vrai, mais je crois que c'était Louis Paul, moi et Renus.
Ouais.
Ensuite on a changé, je crois que c'était Louis Paul, Cyril et moi.
Ouais.
Et ensuite c'est que quand on a fait le split avec la première version de la boîte c'était ça, du coup Renus est parti, du coup c'est Cyril qui l'a remplacé dans la première version de la boîte avant qu'on dépose les dossiers. Et ensuite après quand on est parti aux US, c'est là où on a incorporé la boîte US et où les autres se sont rattachés, où on a fait le flip.
D'accord, parce que vous avez fait le flip avec Texas.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Et donc à ce moment-là vous dites pourquoi vous faites Texas, c'est quoi l'idée?
Je pense que c'est kiffant.
Ouais.
Je pense que c'est important de le mentionner.
Ouais.
Je pense qu'il y a très peu de boîtes qui ont la chance de pouvoir faire ce genre de choses. Donc pour nous, je pense que c'était vraiment une confirmation que ce qu'on faisait avait un intérêt. Le deuxième, c'est parce que le marché du paiement aux US, c'est énorme. Je pense d'ailleurs pour la majorité des boîtes technologiques. Donc pour nous, c'était intéressant. On voyait ça un peu comme une manière aussi de bosser avec des gens qui étaient déjà successful, qui savaient déjà comment créer des bonnes boîtes, qui avaient le bon réseau. Et c'est pour ça vraiment qu'on a argent. En fait, quand on regardait YC et Techstars, il y avait deux choix. YC, c'est t'as pas de produit. Littéralement, t'as une idée, mais t'as pas encore le produit. Tu le construis pendant le cycle. Et surtout, t'as plein de boîtes, donc c'est très compliqué de sortir du lot. C'est-à-dire qu'il faut juste que vraiment que tu sois excellent. Et avec 100 boîtes, tu vas en avoir 10 qui vont vraiment réussir à avoir un truc YC.
Ouais.
Techstars, c'est différent. C'est t'as très peu de boîtes dans les batchs qui sont pliés. Donc elles sont toutes prioritaires, on va dire, pour l'accélérateur à aider. Mais il faut que tu aies un produit qui existe et après c'est itéré sur ce business. Nous on était plus dans ce cas d'usage là.
Ok.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait.
D'accord. Et donc le pari a été gagnant parce qu'en termes de network, de maturité, ouais. Vous avez vraiment vous êtes passé dans une autre dynamique. Ouais. Vous avez mieux compris vos clients, votre marché. Greg est là à ce moment.
Ouais, Greg est là à ce moment.
Greg
a été clé même sur ce moment parce que c'est aussi lui qui nous a aidé à faire l'application pour Techstars, faire en sorte qu'on ait la bonne structure d'information qu'on envoie. Enfin, tu vas savoir de quoi on parle. C'est des choses en fait que tu sais pas quand t'es étudiant, tu sais pas faire ce genre de.
Et donc là, vous allez tous aux US?
Ouais, on va tous aux US.
À New York?
Ouais, à New York. Okay. La boîte finance le logement.
Ok.
Parce que du coup, Techstars injecte un peu d'argent dans la boîte. Donc
vous vivez tous ensemble là?
Au début, ouais. Un peu compliqué. On avait 6 dans un appart qui n'était pas fait pour 6 personnes. Il y a des personnes qui dormaient dans des placards. C'est un peu compliqué. Mais parce qu'il n'y avait pas de lit.
Ouais.
Mais tu te connais l'histoire?
Non.
Non.
C'est quoi l'histoire?
On en parlera après.
Ouais.
Mais du coup, non, mais c'était en vrai, c'est marrant, quoi. C'est des bonnes expériences. Mais après, on se dit que bon, c'était peut-être un peu bien aussi d'avoir de l'espace personnel. Donc, on a pris 2 apparts. Moi, j'ai vécu avec Greg, du coup. On était sur Upper East dans Manhattan et les autres ont pris un autre appart et ils étaient plus dans le sud de Manhattan.
Ok. Et donc c'est quoi cette histoire de placard?
C'est je sais pas pourquoi Greg un soir il s'est dit que ce serait marrant je pense de dormir dans le placard. Du coup il s'est fait un petit setup avec plein de couvertures.
Mais il a mis le placard horizontal ou
il... Non genre il y a un placard qui se fermait, enfin tu sais t'as une porte quoi.
Ouais.
Et il y a très peu d'espace, quoi. Il y a moins d'un mètre de profondeur. Ouais. Mais du coup, il s'est mis une petite couverture et tout. Il a détesté de dire ça. Mais du coup, il a mis plein de couvertures. On lui a prêté un oreiller. Et il a mis, j'ai des photos, si on peut regarder après.
D'accord.
Mais du coup, c'était assez marrant.
D'accord. Donc, et ça dure combien de temps, Techstars?
6 mois.
6 mois. Et c'est, on est en quelle année, là?
Je crois que c'est 2018.
D'accord. Donc, 2018. Donc, vous sortez Techstars.
Non, c'est pas 2018. Non, c'est 2016.
OK. Ouais. OK. Donc, 2016, vous sortez Techstars. un peu plus aguerri en termes de business, de compréhension, de network, parce qu'il y a quand même un network effect intéressant.
Bah, clairement, je pense qu'on a gagné 6 mois, 1 an en fait avec ça. Tu connais le principe de Techstars, c'est le premier mois, t'as le Mentor Madness où tu rencontres genre 100 boîtes différentes, des boîtes de ouf avec des gens de ouf qui vont te donner du feedback très très dur, mais au moins tu perds pas de temps. Donc en fait, ça nous aura pris un an à générer le réseau, à générer les conversations, à avoir des gens qui sont assez ouverts pour nous dire qu'en fait ce qu'on fait c'est potentiellement de la merde. Donc ouais, clairement, ça nous a fait gagner beaucoup de temps.
Ok, et donc là, vous faites un tour de financement, comment ça marche Parce que Techstars met de l'argent contre de l'equity, enfin il y a un service for equity. Hein,
ouais.
Ok, et là, vous revenez en France avec quoi comme client dans le pipe et vous devez lever de l'argent pour quand même bootstrapper le business ou vous avez déjà des clients? Comment ça marche?
Je crois que c'est l'époque où, enfin, quand on est allé à New York, on avait des clients. Clients, c'était vraiment des petits trucs, quoi.
Ouais.
Je crois qu'on avait généré peut-être, je crois que c'était peut-être 5 000 ou 10 000 balles de revenus. C'était
ouais.
pas ouf, quoi.
Ouais.
On est allé à New York, en fait, on s'est rendu compte que on avait l'idée, elle avait du sens. Juste, on était en train déjà de se faire bouffer le marché par les plus gros comme Stripe qui était en train d'arriver en Europe et qui était en train de faire les moyens de paiement alternatifs. Donc, on pouvait pas juste se focaliser là-dessus. À New York, du coup, en parlant avec les boîtes comme Dropbox, en fait, on s'est rendu compte qu'elles avaient des équipes de paiement, qui étaient des spécialistes dans le paiement, qui s'occupaient de plein de sujets comme le taux de conversion, les taux de commission qu'ils payent, comment est-ce qu'ils optimisaient en real time à chaque fois leurs transactions. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un gap énorme entre ces grosses boîtes qui avaient les moyens d'investir dans des dizaines de personnes qui s'occupaient de ça, et les plus petites boîtes qui avaient juste pas les moyens, mais où c'était concrètement quand même un problème. Parce que dans le monde du paiement, ton taux de conversion, en gros, c'est s'il n'est pas à 100%, tu perds des utilisateurs. Donc,
ouais.
C'est bon ?
Ouais.
Du coup, quand on est à New York, on rebosse un peu sur le produit pour s'aligner sur ces feedbacks-là qu'on a. Et c'est là, du coup, on a l'idée de faire du smart routing, d'optimisation en temps réel, des transactions, ce genre de choses, on reconstruit le produit, ensuite on revient en France. Donc je pense que la réponse à ta question, excuse-moi, c'est je pense qu'on n'avait pas la masse de clients quand on est revenu en France. C'était justement, on revenait parce que on se rendait compte aussi que aux US, le time to revenue était très très long. Et en France, au moins, on avait le network français, donc on pouvait plus tabler sur ça.
En revanche, je comprends mieux le pain de certains, enfin, l'opportunité de marché de finalement softwariser ces équipes de paiement sur des clients plus petits, quoi.
Ouais.
Ok, et donc là, vous faites un tour de financement avec des angels, comment ça marche? C'est peut-être à ce moment-là qu'on se croise la première fois.
Bah, voilà, du coup, c'est ça.
Ouais.
Du coup, on se croise à ce moment-là.
Ouais.
Je pense qu'en fait, on cherchait des bureaux, on a trouvé des bureaux qui n'étaient pas ouf au début, on est allé là-dedans, et puis on disait que Techstars, ça nous avait vraiment apporté une structure qui, pour nous, avait vraiment eu beaucoup de valeur. Tu vois,
ouais.
De savoir, en fait, avoir quelqu'un qui te dit... tiens, essaye d'aller voir dans cette direction, c'est intéressant. Pas de dit quoi faire, mais juste, tu vois, les gens successful, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était intéressant pour nous.
Ouais.
En France, on n'avait plus ça. Et on cherchait un partenaire et à côté, quelqu'un qui nous aiderait justement à faire une potentielle nouvelle série. Et c'est là où on s'est rencontrés.
Ouais.
On a pitché à 50.
Ouais. Et chez 50, finalement, vous rentrez assez vite et on fait un club deal pour investir avec... avec des quelques business angels.
Ouais. Les 20 millions.
Ouais, 1 million. Je me rappelle du dîner, du closing, c'était très sympa. C'était très sympa. Ok, donc là, on lève 1 million avec des BA de la tech en France.
Pas qu'en France d'ailleurs, aussi aux US, on a genre Alexis Lecoq de Datadog maintenant qui est coté à New York. Enfin, c'est vraiment des mecs qui étaient géniaux, quoi, qui nous ont vraiment aidés sur beaucoup de trucs. Je me souviens, on avait des problèmes techniques et, sur notre DB. Et Alexis, littéralement, il est venu sur Skype avec nous et il a pris 30 minutes de sa journée alors que le gars, il a une boîte qui vaut des milliards, le fondateur de cette boîte, et le mec, il bosse avec des gamins qui ont un problème avec une DB qui ne savent pas gérer, quoi. Donc,
c'est cool.
c'était vraiment très très cool, ouais, c'est d'avoir ce réseau-là aussi.
Donc, vous avez un peu de cash pour aller chercher les premiers clients. Vous avez, moi, je me souviens d'un meeting qu'on avait fait avec notre ami Francis Napez, blablabla.
Ouais.
Qui a amorcé la pompe finalement sur des sujets de processing de paiement.
Ouais.
Parce qu'à l'époque, on essaie de mémoire, je crois qu'il y avait un sujet de. Il fallait brancher Process Out pour pouvoir analyser tout le flux.
Ouais.
Et puis donner des recommandations sur comment optimiser, quoi.
Ouais.
Et donc il fallait avoir du volume.
Ouais.
Et donc Donc forcément, blabla, c'était intéressant.
C'est un cas très intéressant. Hein.
Et Francis avait investi aussi en même temps.
Ouais.
Ouais. Donc ok. Donc tout ça c'était très connecté. Et donc comment vous passez parce qu'il y a eu des enjeux, je crois, de processer des milliards de paiements. Comment c'est quoi les steps en termes de.
Bah, en fait, dans le monde du paiement, le truc c'est que c'est. Enfin, j'ai des discussions comme ça tous les jours, mais c'est. C'est comme l'uptime, quoi. Tu vois, genre si ton service il est down, enfin si peu importe la boîte que t'es, si ton service est down, tes utilisateurs peuvent pas utiliser ton service, donc théoriquement ils peuvent pas te payer ou ils peuvent pas utiliser ou ils sont pas contents. C'est rare dans la majorité des cas. T'as des certains cas comme le service public, j'imagine. Tu vois, quand t'es down, bon, bah, personne ne va vraiment se plaindre parce qu'il n'y a pas moyen de se plaindre. Mais en tout cas, dans la tech, si tes services fonctionnent plus, c'est problématique. Quand le paiement est pas là, c'est un peu similaire dans le sens où si quelqu'un essaie de payer, bah ils peuvent pas payer. Donc tu payes un utilisateur qui va potentiellement voir ton concurrent. Donc c'est ultra critique.
Ouais.
Quand nous on allait voir des boîtes pour le coup, notre valeur, elle n'est pas là pour les SMB, elle est là pour les plus grosses boîtes qui commencent à chercher à optimiser leur paiement, parce qu'en fait, on joue sur des pourcentages. Donc, si ton pourcentage, enfin, ton total est petit, le pourcentage reste infime. Mais du coup, les plus grosses, quand on va leur pitcher le truc et qu'en fait, t'as trois gars de 22 ans qui arrivent et qui pitchent le truc et qui te disent, en fait, c'est la boîte, elle a 2 ans et en fait, on processe 10 000 balles,
ça
t'as pas vraiment de confiance, quoi.
Ouais.
Donc, la première étape qu'on avait, c'était de générer cette confiance et de générer un peu un momentum où on n'allait pas nécessairement processer ces transactions-là, mais on allait analyser les flux financiers de ces gros acteurs en ayant une valeur ajoutée et en leur montrant qu'on était sérieux, qu'on comprenait de quoi on parlait, pour leur générer un intérêt et ensuite qu'ils puissent faire un pari, en fait, littéralement sur nous et faire ça. Donc typiquement, c'est ce qu'on a fait avec Vente Privée. On a aussi rejoint leur accélérateur. Enfin, c'était aussi un autre biais qu'on utilisait pas mal, de se rapprocher à travers les accélérateurs et tout. Vente Privée avait ça, ou VP maintenant, avait ça. Donc on les a rejoints. On leur a montré qu'on avait un service d'analyse de transactions qui pourrait leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne performent pas bien sur certains segments de leurs utilisateurs. On a fait ça. Et en fait, in fine, bah, ça a marché et maintenant on processe leur transaction. Et VP, ça a été un des premiers utilisateurs de Processeur qui nous a permis d'aller voir les autres marchands enterprise en France et qui nous fassent confiance, quoi.
Et à l'époque, finalement, la boîte croît avec ses quelques gros clients.
Ouais.
Pareil, vous êtes une team assez singulière au sens où il y a beaucoup de cofondateurs.
Ouais.
Alors la force, c'est que il y a une task force importante, donc vous pouvez produire beaucoup de choses uniquement avec vous six.
Ouais.
Comment ça se passe? Comment la boîte grossit? Les premiers employés pour intégrer tous ces gens-là?
Comment ça
c'est intéressant d'en parler peut-être.
Bah, moi, en fait, c'est marrant parce que à chaque fois que j'en parle, le savent. Un de mes objectifs, tu vois, on parlait de je faisais du biz lycée ou pas. En fait, mon objectif, in fine, c'était pas de faire du biz, c'était de créer de l'emploi. C'est comme ça que je voyais.
Ça, c'était un de mes drives.
Ouais, c'était un de mes drives. Et c'était aussi parce que ma famille est plutôt de gauche, donc il y avait un aspect un peu social à ça. Donc c'était quelque chose qui me portait vraiment à cœur. Et Processat, du coup, en fait, enfin tu vois, j'attendais que ça, en fait, qu'on réussisse à grossir et qu'on ait le besoin d'avoir des gens avec nous. Et du coup, c'était un pur kiff, quoi, de pouvoir commencer à avoir des gens. Au début, c'était pas des full-time employés, quoi. On a commencé avec des stagiaires. Notre premier stagiaire, d'ailleurs, n'est pas resté avec nous, mais très très rapidement, on a commencé à convertir en CDI, on a commencé à embaucher aussi du CDI pur dès le début. Enfin, c'était très cool, quoi. On a commencé à voir que c'était pas juste une boîte entre potes, c'était aussi une boîte qui avait réellement un aspect, enfin, qui faisait vraiment du business, qui aider à la vie d'employés aussi. Tu vois, enfin, quand t'embauches quelqu'un, en fait, tu vas payer cette personne, donc tu vas lui permettre de vivre.
Ouais.
Et c'est un aspect différent, en fait, que les gens, je pense, ne réalisent pas nécessairement quand tu crées une boîte.
Ok, donc pour toi, c'est un sujet important. Et donc, vous passez de 6 cofondateurs, vous grossez jusqu'à quelle taille, et puis c'est quoi la suite de l'histoire? Après l'accélérateur, je me rappelle, moi, de vous avoir rendu visite, vous étiez dans l'incubateur, effectivement, de VP,
ouais.
Donc vous aviez les bureaux à Station F, là.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe après cette période-là?
Du coup, on bosse vraiment de manière étroite avec VP. À côté, en fait, on commence pas. Ils nous aident à avoir une image qui est solide, quoi,
ouais.
Qui montre qu'on sait travailler avec des gros qui ont beaucoup de volume. Enfin, tu vois, VP, c'est plusieurs milliards par an, donc c'est pas anodin. Et on voit toutes les transactions, donc on peut le dire, on peut le montrer, on peut pas montrer leur transaction, mais on peut montrer qu'on a du volume et qu'on sait gérer ça. Donc on commence à aller voir d'autres boîtes, comme tu vois, on parle avec des trucs comme la FDJ, Cdiscount, BNPP, enfin il y a plein de boîtes comme ça. Cool, à côté, il y a Blablacar avec qui on bosse aussi. Donc en fait, on continue un peu d'étendre notre portfolio de marchands et de clients. Je sais même plus comment est-ce que ça s'est passé, mais on parle avec Glovo. Glovo, en littéralement, je crois, 3 semaines, on les connaît jour 1. Jour, du coup, 3 fois 7, 21, ils sont live avec nous. Ouais. Okay. Donc, tu vois, signature du contrat, live, 100% du trafic, je crois que c'est 3 semaines, peut-être que j'abuse un peu, mais c'était très, 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 très court. C'était pas plusieurs mois, quoi. C'est une boîte qui nous génère un max de revenus dès le début. C'est totalement game-changing pour nous. Donc, il y a ce genre de choses-là qui se passent pour nous, et ça je m'en souviens vraiment très, 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 très vivide.
Et puis, c'est aussi une période dans laquelle il y a déjà de l'appétit autour de Process Out. Quoi. Moi,
quelques
discussions de gens qui se disent, mais c'est peut-être une pépite à racheter.
Ouais, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois vrai et pas vrai, dans le sens où je pense que le marché a encore besoin beaucoup d'être éduqué.
Ouais.
Les gens comprennent pas en fait que le paiement c'est pas une science exacte et qu'il y a besoin d'avoir des gars un peu derrière le tableau de bord qui regardent ce qui se passe et qui comprennent pourquoi ça se passe pas nécessairement bien et quelles actions il faut prendre pour que ça se passe mieux. Enfin, ça c'est pas comme ton téléphone, tu le prends, tu t'envoies un SMS et le SMS part. C'est quand tu fais un paiement, même toi, moi, tout le monde, on a déjà eu un paiement qui a été refusé, on ne comprend pas pourquoi.
Ouais.
Les gens comprennent pas ça. Donc il y a eu beaucoup d'éducation. Et maintenant aujourd'hui on le voit sur le marché, je pense que tout le monde commence vraiment à le comprendre. Il y a énormément d'argent qui part là-dedans aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acteurs similaires qui partent là-dedans aussi. Mais à notre époque, quoi, ça commençait vraiment à prendre. Et je pense qu'on a joué un rôle clé pour montrer que c'était un besoin pour les marchés.
D'accord. Ok. Et donc là, vous grossissez. Glovo, c'est un autre game changer en termes de business. Là, on est en quoi ? On est en 2018.
Ouais, 18. Ouais.
Ok. L'acquisition par Checkout, elle se fait à quel moment ?
Je crois qu'elle se fait. On entame les discussions l'été 2018, je crois.
Ok. C'est quoi l'icebreak ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est Guillaume ? C'est Greg ? Comment ça marche ?
En fait, il y a plusieurs points. Il y a déjà un premier point, c'est que le Checkout, on les connaît depuis le début.
Ouais.
C'est eux qui nous ont permis d'onboarder le tout premier marchand avant même qu'on aille aux États-Unis. Notre premier marchand sur les 5000 balles qu'on a eu de revenus, c'est Checkout qui nous a permis de les avoir au début. Donc on les connaît vraiment depuis très longtemps, on a vu leur croissance. En début, on ne savait même pas à quel point ils étaient gros parce que c'était une boîte qui était totalement pas stealth, mais tu vois, ils n'ont pas fait de.
Sous le radar,
ouais. Ouais, ils n'avaient pas de. Ils n'ont fait aucune levée, c'est une boîte privée, mais ils n'ont fait aucune levée. Ils n'ont pas l'air d'avoir la masse de people à Londres ou en Europe. Tu vois, on ne savait pas trop ce qu'ils sont. Et en fait, on a appris à les connaître. Tous les deals qu'on voyait, en fait, on était un peu en partenaire. Quoi, tu vois, comment est-ce qu'on pouvait avoir une approche commune et tout. Et l'été, du coup, on a eu ces discussions-là. C'est que, on entamait une nouvelle levée pour aller à la next step. Je sais plus comment est-ce que ça arrivait, mais tu en aiguille, en fait, on a mentionné ça à Checkout, on faisait une levée, et je pense qu'ils se sont dit, c'est intéressant peut-être d'investiguer un peu plus là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble.
De participer ou de se rapprocher
je pense que la participation aurait pu être évoquée, mais je pense qu'elle n'était pas intéressante pour nous, parce que on aurait perdu, je pense, un aspect un peu agnostique qu'on avait. Justement, si t'as un partenaire comme Checkout qui arrive, surtout quand t'as un Stripe, en fait je pense que le pari ça aurait été que les Stripe, Adyen, Checkout, ils mettent tous chez nous, jamais ce sera arrivé,
mais c'était compliqué à faire,
ouais. Donc je pense que avec Checkout on a essayé de faire ça avec d'autres personnes, tu vois, typiquement on parlait avec plein d'acteurs du paiement, je sais pas si je peux citer les noms, mais il y avait plein d'acteurs, les gros noms qui étaient dans les term sheets qu'on avait sur nos levées. Et c'était un peu ça le but, c'est de montrer qu'on pouvait agréger, être un catalyste un peu de tout ça.
Ouais.
Mais Checkout, ouais, je pense que ça aurait été compliqué.
D'accord. Et donc il y a un dual track. D'un côté, finalement, il y a une levée de fonds classique.
Ouais.
Donc vous discutez avec quelques VC.
Ouais.
Et en parallèle.
Aux US pour faire une levée. Parce que le but c'était aussi de se lancer aux US, d'ouvrir un bureau. Donc on passe pas mal de temps à San Francisco. Enfin, Cyril passe pas mal de temps, Greg aussi, je crois. Ouais. Moi j'y passe une semaine ou deux. Enfin, on fait pas mal de ça, on rencontre avec Marcus là-bas, enfin, on fait pas mal de trucs. Mais ouais, in fine, Checkout, c'était vraiment...
Et donc Checkout se démarque très vite et commence à échanger, ouais. Enfin, vous parlez de M&A très vite, quoi.
Ouais. En fait, on était assez transparent, quoi, vu qu'on parlait beaucoup enfin, vu qu'on travaillait déjà pas beaucoup ensemble, bah, ça avançait vite, quoi. On avait déjà des bonnes relations.
D'accord. Et donc là, c'est quoi? C'est Guillaume qui est à la manœuvre, ou c'est d'autres personnes de son équipe? Comment ça,
C'est...
avec qui vous discutez côté Checkout?
On discute majoritairement avec Mac, qui était head of strat à l'époque.
Ok.
Et du coup, ouais, on travaille avec eux, ils font leur due deal aussi de leur côté, donc ils envoient du people de chez eux à Paris, à Station F, donc on fait des workshops ensemble. Ils essayent de nous faire peur, donc c'est marrant parce que du coup, on est passé dans cette étape-là aussi, où en fait, ils essayent de nous faire peur en mode genre, mais les gars, ce que vous faites là, c'est nul, alors qu'en fait, bah, tu te rends compte que c'est juste. Enfin, ils essayaient, je pense, de leverage le fait qu'on était un peu innocent à l'époque encore, mais c'était un exercice assez intéressant. Hein. Mais ouais, ça, puis après, ça a pris 6 mois, je pense. Tu
Ah,
vois,
quand même.
moi, je crois que c'était 6 mois.
D'accord. Donc pour lever de l'argent, c'est 6 mois, et pour vendre une boîte, c'est 6 mois. Ok.
Ouais, bah c'était un pari aussi.
Ouais. Donc vous abandonnez complètement la piste de finalement lever des
Ah non, pas du
fonds.
tout.
Ah
On
non.
garde toujours le dual track, justement, bah c'est du travail, hein, c'est pas mal le taf. Et puis même pour nos employés, en fait, au début, on veut pas non plus déjà leur dire qu'on est en train d'investiguer une revente, parce que ben, c'est juste du bruit, en fait,
Ouais.
pour eux. Et on veut pas les défocus de ce que sont nos priorités actuellement, parce qu'il y a encore de grandes chances que justement on fasse une levée et qu'on fasse pas une acquisition. Enfin, qu'on se fasse pas à quoi. Donc, non, non, ouais.
Et à ce moment-là, vous avez des sujets de cash, est-ce qu'il y a du stress en termes de juste de, tu vois, de renouer en disant, oh, putain, ok, il faut qu'on arrive à trouver un deal dans...
Ouais.
Est-ce que tu te rappelles de ça
Si,
ou...
si, ouais, non, mais honnêtement, enfin, on avait une approche qui était très bullshit. Pour le coup, ça, je pense que, tu vois, je disais très innocent, mais à la fois aussi, je pense que c'est pour ça que Greg, c'était vraiment cool qu'il nous rejoigne. C'était que ça ramenait aussi un peu cet aspect de structure, de
Ouais.
comment gérer nos finances et tout. Et je pense qu'il a été clé sur ça, de faire en sorte que on soit pas dans la merde. Donc, on avait des discussions compliquées. Forcément, comme tout fondateur, même juste après que tu fasses une levée, t'as forcément des discussions compliquées parce qu'il faut tout le temps que tu parles de combien t'as de revenus et tout. Mais au moins on les avait au début, donc on pouvait agir. Et donc on n'a jamais été dans la merde.
D'accord, ok. Et donc, à partir de quand vous savez que le truc va se concrétiser? Donc là, si tu me parles de l'été,
Ouais.
c'est à partir de quelle échéance de temps vous dites, vous recevez une vraie term sheet
En fait, la letter of intent, on l'a reçue assez rapidement. Je pense que c'était, je sais pas, septembre.
Ok.
Il y a eu la due deal après qui a dû prendre 2 mois. Et je pense que c'est parce que chez toi, tu n'avais pas non plus l'expérience de le faire, quoi. Tu vois, c'était compliqué. Enfin, il y avait la data room. Même nous, on n'avait pas l'expérience. Tu vois, faire une data room, c'était un enfer. Tu as plus d'expérience que moi sur ça, mais tu as des centaines de cases à checker, à faire de l'info, à drafter des trucs et tout. Tu peux pas en parler à tes employés, il faut que tu leur demandes de l'information. Donc, tu trouves un moyen enfin, c'était un peu compliqué. Ouais, je crois qu'en novembre, c'est là où on a eu un peu la confirmation. Novembre-décembre, c'est là où on a eu la confirmation qu'en gros ce serait fait. Non, ouais, novembre, parce qu'en décembre, on a eu la Christmas party de Checkout où on y allait en stealth. Personne ne savait qu'on se faisait racheter, hormis nos employés et nous. Donc, on allait à leur party de Christmas, il y avait genre 300 personnes.
Et c'était où ça?
Ah, bah à Londres, du coup,
À Londres?
ouais. Donc, on est allé en boîte avec Checkout. Checkout avait loué une
Cool.
boîte
Ouais.
et on était tous allés là. Ouais. Personne ne savait qui on était, c'était très marrant.
Et ça devait être ouf, ça,
Ouais,
ce moment-là.
c'était très très drôle. Bah, tu sais, justement, littéralement, tu ne connais personne, personne te connaît, mais tu fais partie d'un groupe qui sera le tien, quoi. Donc,
D'accord.
c'était assez intéressant.
Et donc c'est un deal uniquement en cash ou en papier ou les deux?
Les deux. On va
Les
pas aller dans les
deux.
détails, mais les deux.
Les deux, ok. Ok, donc c'est quand même un vrai achievement en tant qu'entrepreneur. Là, vous êtes 6 finalement, entre guillemets, à pas changer de vie, mais quand même un peu. Finalement, tu passes de étudiant entrepreneur à... on vient de se faire acheter par une des plus grosses boîtes de paiement. Donc c'est quand même, je pense, une
Ouais, non,
vraie
c'est.
satisfaction. Vous, tous les 6, vous avez un rôle à jouer dans Checkout. Comment ça se passe un peu votre reconversion? Comment ça marche?
Ouais, bah, en fait, je pense que ça revient un peu toujours à la même chose, c'est qu'on était la première acquisition de Checkout. Maintenant, je pense qu'on a plus d'expérience.
Ouais.
Je crois qu'il y en a 3-4 là qui ont déjà été faites, donc on commence à savoir comment le faire. Mais à l'époque, ouais, c'était un peu. C'était la première, donc tu vas définir qui va où, ça va être quoi le scope of work. C'était un peu pas up in the air, mais c'était un peu, tu vois, we'll figure it out, quoi. Donc le scope était pas nécessairement méga bien défini, mais on savait ce que c'était, en tout cas, les ambitions de chaque personne. Okay. Donc, c'était un peu sur ça qu'on s'est basé. Et à côté, bah, il y avait juste des besoins que Checkout avait. On n'allait pas juste créer un nouveau rôle juste pour Checkout. Donc, désolé, je suis beaucoup d'anglicisme. Mais du coup, ouais, en fait, on fit en aiguille. On allait dans des rôles qui avaient besoin. Et puis, on a étendu le scope au fur et à mesure. Donc, parlez-moi, quand je suis arrivé dans Checkout, il y avait un besoin de reprendre tout ce qui était le front-end et le hub, enfin ce qu'on appelait le hub, donc le dashboard que les marchands utilisent pour interagir avec leur paiement. Moi, j'ai repris ça, je l'ai remis à plat, j'ai développé une nouvelle plateforme.
Et ça c'était quoi quand on parle de scope d'équipe, là, c'était des équipes qui étaient à Londres, qui étaient à Paris, comment ça...
C'est que à Londres. À cette époque-là, c'était que à Londres, je crois que j'avais du coup 15-20 personnes qui commençaient à bosser avec moi. Donc c'était un step-up.
Bah oui.
Donc c'était très intéressant. Je me souviens, tu vois, le premier jour où je suis arrivé à Londres, j'étais un peu intimidé. C'était 20 personnes que j'ai invité à Dej. Pourquoi pas prendre à connaître, mais en fait, c'était juste personne. C'était intéressant. Mais après, c'était pas non plus l'ambition finale. Pour moi, c'était genre first step, quoi. C'était prendre les outils qu'on avait développés dans le process. C'était ça l'idée derrière. C'était prendre les outils front-end qu'on avait de process out, monitoring, analyse de paiement, graphique et tout, prendre cette tech et la mettre chez Checkout.
Okay.
Donc j'ai reconstruit la plateforme en incluant tout ça, évidemment avec l'aide des gens de Checkout et des gens de process out type Guillaume qui focus sur la donnée. Du coup, on a fait ça. Et après, c'est là où en fait, tu vois qu'il y a des problèmes dans la boîte, donc tu prends l'opportunité et tu les saisis et tu avances, quoi. Et donc après, il y avait des problématiques sur ce dont je parlais avant, l'acquiring, donc tout ce qui est acquisition de paiement avec les schemes de cartes, donc Visa, Mastercard et tout, mais aussi avec les moyens de paiement alternatifs type PayPal. J'ai commencé à reprendre ça, donc mes équipes ont grossi. Après, on s'est rendu compte qu'on avait des soucis d'alignement entre les équipes, donc j'ai pris encore d'autres équipes qui étaient plus liées à ce moment-là, ce qu'on appelle la gateway, donc tout ce qui interagit avec le marchand, les API de paiement, tout ce truc-là, pour créer une équipe de paiement processing. En fait, au final, là, il y a 3 mois, j'avais 55 direct reports, enfin pas direct, mais dans mon org à moi, j'avais 55 personnes. Dans l'org d'engineering, je crois qu'il y en avait 200-250. Donc ça commençait à être un truc assez massif. Et pour moi, c'était ça l'ambition initiale, c'était de vraiment prendre de l'expérience sur savoir passer à l'échelle des équipes, quoi. Ouais. Enfin, structurer les équipes, savoir qui est bon où, faire du management. Enfin, c'était pas faire du management pour faire du management, tu vois, réussir à travailler avec les personnes, alors donner l'opportunité de grandir dans leur rôle, c'était quelque chose qui était vachement intéressant pour moi.
C'est cool, donc tu reconnais les dots de tu crées de l'emploi, des gens qui en plus vont se réaliser.
Exactement.
Et d'accord. Et donc les 100 premiers jours, juste pour être concret, les 100 premiers jours, tu dois reprendre finalement le legacy front de Checkout, en sachant que toi finalement côté produit, côté process out, c'était assez léché finalement, parce que
c'était neuf, quoi.
Bah c'était neuf, c'était et puis il y avait une sensibilité déjà produit à l'époque. Vous aviez déjà benchmarké plein de trucs pour être
Après, je pense qu'on n'était pas excellent non plus, typiquement en UI, je pense qu'on était pété. Rien que l'idée de mettre du mauve comme couleur primaire, je pense que c'est un peu problématique. Et c'était, tu vois, c'était moi, je trouvais c'était stylé, il y avait personne qui faisait ça, donc pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça? Après, je pense que du coup, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille et que personne ne le fasse. Mais il y avait ce genre de choses-là qui étaient un peu qui étaient intéressantes. Mais ouais, Checkout m'a aussi un peu apporté ça. Comment est-ce que tu bosses avec des designers? Comment est-ce que tu fais une UX qui est léchée et où tu fais réellement de la discovery avec tes utilisateurs, tu vois, des tests, tout, c'était des interviews. On en faisait à process out. Juste, on faisait 10 000 autres trucs à côté. Donc, tu ne pouvais pas te focus et être excellent à ça.
Ok, donc changement de casquette. Là, tu deviens en tout cas, les 100 premiers jours, tu deviens un manager avec un cahier des charges qui est quand même relativement clair. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être deux, trois événements un peu où toi, en tant qu'entrepreneur, c'est difficile pour toi, tu vois, de rentrer dans une nouvelle organisation, tu vois, tu dois rendre des comptes. Avec qui à qui tu reportes et comment en fait la mafia process out vit dans la mafia check out. Comment tout ça se...
Du coup, moi, je suis en produit, je reporte au head of product.
Et tu partages ton temps entre Paris et Londres ou comment ça marche?
Avec Covid. Hein.
Ah oui. Et tu fais ton Covid à Paris?
Ouais.
Ok.
À chaque fois, moi, je trouve que c'est drôle, mais à chaque fois que je le dis, personne rigole, mais je vais quand même leur dire. Quand on a fait l'acquisition la première semaine, on était à Londres avec avec Guillaume et Whipple, où on voulait y bouger quoi, et on a loué un Airbnb et tout, on cherche des apparts, moi je suis nul, mais Whipple il en trouve un, je crois en 2 jours il trouve, il le signe. Un jour après, enfin pendant ça on voit la Chine qui est un peu dans la merde, et puis on se dit putain c'est un peu compliqué là-bas, mais bon tant pis ça va jamais venir. Puis après il y a l'Italie, puis on se dit bah ça va jamais venir en France quoi, l'Italie c'est bon. Sauf que après ça vient en France et moi je suis toujours bon, c'est pas grave, il va rien se passer quoi. Eux ils se disent on va rentrer en France parce que c'est quand même un peu la merde. Louis-Paul avait signé son appart, pas moi, donc au final en fait bah lui il s'est retrouvé à payer pendant 6 mois son appart et après il est allé à Londres une fois que le Covid était plus là. Moi je suis revenu en France, puis je suis resté en France, puis là j'ai acheté un appart à Paris. Puis genre, je suis bien ici. Okay. Et in fine en fait mes équipes, genre, j'en ai à Londres, j'en ai à Maurice, j'en ai à Berlin, j'en ai à en Estonie, à Tallinn, enfin, j'en ai à Odessa, en Ukraine, du coup, c'est un peu compliqué là, en ce moment. C'est, je crois que tu as un centre d'étudiants qu'on en parlait.
Mais la majeure partie de l'équipe était à Londres.
Ça dépend ce que tu appelles majeure partie.
C'est quoi, en termes de staffing, où est-ce qu'il y a le plus de monde?
Je pense qu'à Maurice, il y a pas mal de personnes.
Ah oui, d'accord.
En fait, historiquement, Checkout avait beaucoup, beaucoup de people à Maurice. Donc, et vu que mes équipes, en fait, c'est des équipes qui sont vraiment sur le core business, le vraiment le produit core, donc l'acquiring, il y a encore beaucoup de people là-bas.
D'accord.
On étend le truc, c'est important d'avoir une knowledge qui est, tu vois, typiquement, on parlait de stratégie, people et tout, c'est important de faire en sorte que les différentes régions puissent travailler ensemble et qu'elles aient un niveau de connaissance qui soit assez équilibré, donc on bosse sur ça, mais on a encore beaucoup de people à Maurice.
D'accord, ok. Donc, finalement, le remote, c'est assez naturel.
Ouais.
C'est naturel, ok.
Après, à voir comment ça se passe une fois que le Covid est de retour, tu vois. Là, typiquement, il y a beaucoup de gens en bureau. Là.
Ouais. Ouais, par rapport. Je suis venu la semaine dernière, il y avait un peu moins de monde, mais ça va venir.
Ouais, ça grandit, quoi.
Et le reste de ton crew, de côté processade, vous vous croisez, vous êtes en mode, ok, en fait, ça y est, chacun a sa responsabilité ou...
Bah, typiquement, du coup, tu vois, Greg, il bosse à côté strat, on travaille pas mal ensemble, je travaille pas mal avec ses équipes aussi sur. Tu vois, qu'est-ce qu'on veut faire chez Checkout. Il y a Cyril qui bosse côté commercial, donc on est pas mal sur, on bosse pas mal ensemble sur ce dont il a besoin sur ses comptes stratégiques. Enfin, il bosse dans une équipe qui s'appelle comme ça. Jérémy, il bosse dans Processout. Processout, moi, je suis toujours proche de ça. Guillaume, il bosse toujours à donner dans la performance paiement. Donc, pareil, enfin, c'est dans le core business, donc on bosse tous les jours ensemble. Whipple, c'est pareil, il bosse dans les équipes ingénieurs sur le core business, donc pareil, on bosse ensemble. Donc ouais, on est toujours là.
Vous êtes tous encore chez Checkout, en plus. C'est ça qui est intéressant.
On a juste un employé qui a quitté Checkout après 6 mois, mais c'est tout. Sinon, tous les autres sont restés.
Tous les cofondateurs, en tout cas.
Tous les cofondateurs et tous les employés sont restés dormir.
Ouais, donc vous savez que la greffe a quand même bien pris.
Ouais.
Et puis vous continuez à être assez actif, même en tant qu'angel, les uns les autres, à investir dans des sujets fintech ou pas, d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même, ça montre que quand même ça fonctionne. Et c'est quoi les enjeux pour toi là dans les 6 prochains mois en termes de produits, de responsabilités? Comment tu vas continuer à grandir dans le hangar?
En fait, je pense que ce qui est intéressant là, c'est que tu as à chaque fois je dis ça, mais on passe à une étape suivante. On aime bien dire qu'on est toujours à chapter 0. Enfin, je sais pas si tu as vu les interviews de Guillaume, notre CEO, mais il adore dire on est à chapter 0 after our 10 years. Mais pour moi, là, on passe à une étape d'après. C'est toujours chapter 0, mais page 2, on va dire. On a eu beaucoup, beaucoup de travail en 2021 sur réaligner nos plateformes, faire en sorte qu'elles soient prêtes pour la nouvelle génération de passage à l'échelle, quoi. Des nouveaux produits qu'on veut lancer. Donc là, on est sur une dynamique de créer des nouveaux produits qui ne sont pas que de l'acquiring, pouvoir enable, tu vois, de l'issuing, du marketplace, ce genre de choses. Et c'est des challenges qui sont intéressants pour plusieurs raisons. Un, technique, l'année dernière, c'était purement ça. Donc c'était comment est-ce que mes équipes, je peux leur permettre de pas de résoudre ces problèmes, mais de pouvoir... permettre aux autres équipes de faire ce dont ils ont besoin sans impacter notre core business. Et là, cette année, ça va être plus comment est-ce qu'on réussit maintenant que ça s'est fait, à restructurer un peu nos équipes pour qu'on puisse vraiment avoir un focus clé sur le produit. Tu vois, jusque-là, on avait un aspect très technique à ce qu'on faisait. Comment est-ce qu'on va construire nos plateformes? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas trop de dépendance entre les équipes? Maintenant, ça va être comment est-ce qu'on fait un produit qui va être le meilleur sur le marché, comment est-ce qu'on crée une équipe produit qui va être la meilleure sur le marché pour qu'on attraque du talent. Enfin, tu vois, c'est des sujets qui sont différents, mais super intéressants. Et pareil, c'est des choses que je ne connais pas, en fait. Donc, je vais apprendre sur le tas, mais c'est intéressant.
C'est super. C'est super. En tout cas, tu as l'air bien dans tes baskets, bien dans ce que tu fais. Et tout ça fait beaucoup de sens. Peut-être un dernier sujet intéressant de comprendre et de voir comment ça évolue. Pareil, est-ce que tu t'es mis en mode toi aussi, j'essaie de récupérer le maximum de talent, tu vois. Finalement, toi, t'es inscrit dans une dynamique de création de valeur chez Checkout. Donc t'as un fort alignement parce que j'imagine qu'il y a des stocks et t'as envie que la boîte en fait forcément elle évolue dans le bon sens. Donc est-ce que tu contribues de manière significative et comment tu le fais pour attirer des talents du paiement que t'as pu côtoyer chez ProcessOut ou ailleurs, enfin, comment t'es acteur de ça?
Honnêtement c'est une bonne question et je pense que c'est un challenge, tu vois, genre je suis encore jeune et j'ai pas un réseau ultra fort sur des personnes en produit qui ont de l'expérience paiement et qui sont seniors. Tu vois, aujourd'hui, je vais pas recruter des product analysts, des gens un peu plus juniors dans mes équipes parce qu'en fait, c'est pas mon job, c'est le job plutôt des personnes dans mes équipes quoi, qui de le faire. Donc, et eux, ils ont aussi du réseau, justement, c'est pour ça qu'on les a aussi embauchés, parce qu'ils peuvent ramener cette expérience et ce réseau. Dans les personnes plus seniors, en fait, c'est des personnes que je connais pas. Donc, c'est un challenge. Et tu vois, jusqu'ici, il n'y avait pas beaucoup d'événements où on pouvait aller, où on pouvait rencontrer des gens. Donc, j'ai pas ça. Je pense que ça va être justement un des enjeux de cette année, c'est comment est-ce que je peux réussir à développer ce réseau et à réussir à l'attirer. Maintenant, je pense que j'ai embauché des gens, j'en ai pas mal. Je pense que réussir à communiquer une histoire, que les gens s'y accrochent, qu'ils y croient, tu vois, qu'ils soient vraiment motivés par ça, c'est quelque chose que je sais faire. L'enjeu maintenant, c'est de trouver ces gens et d'accélérer. Parce que là, recruter, aujourd'hui, ça me prend des mois de trouver vraiment la personne qui correspond à tous mes besoins. Maintenant, il faut que je réussisse à me créer une pool de talents qui me permet d'aller plus vite sur ces sujets.
D'accord. Et donc, ça veut dire aussi, toi, en termes de facing par rapport à la boîte, ça veut dire aussi participer à plus de comptes internationales, ouais. prendre que tu sois aussi plus visible pour rencontrer tes pairs dans de Stripe and Code. Enfin, j'imagine que finalement il va falloir débaucher des talents, ouais. qui sont dans des, ouais. dans des leaders du paiement.
Typiquement ça aujourd'hui on le fait, ouais. Mais c'est pas moi qui vais leur parler et qui va essayer de les débaucher, c'est plutôt on a des équipes dans HR, enfin Talent Acquisition, qui vont leur parler, qui vont leur vendre Checkout et ensuite ils vont m'introduire et je vais leur vendre les positions qu'on a. Mais c'est pas moi qui vais leur parler en direct. C'est un enjeu, je pense que oui, ce que tu as dit, tu vois, les événements, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, et qu'on fasse aussi. Se mettre en avant, c'est quelque chose que je n'aime pas. Tu vois, personnellement, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Après c'est ça, je crois que tu connais l'histoire, mais au début j'étais CEO, ça me plaisait pas du tout, j'aimais pas justement démarcher des clients, démarcher des VC, c'était très chiant, tu vois, il y a plein de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille chacun personnellement, sur les aspects personnels. Je pense que ça c'est un des enjeux pour moi.
Ok, super, bon, merci. Un grand merci pour ton temps, ton honnêteté et puis finalement cette conversation qui était hyper direct, hyper qui me rappelle forcément des bons souvenirs. Et puis longue vie à toute l'équipe ProcessOut et puis bien sûr longue vie à Checkout.
Ouais, merci beaucoup.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao ciao.